Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Le déni de grossesse reste encore aujourd'hui une pathologie souvent taboue. Pourtant, cette pathologie figure dans la classification des maladies de l'OMS. Sa fréquence est estimée à près d'une grossesse sur 500. Mais concrètement, qu'est-ce que le déni de grossesse? Quels sont les différents types de déni de grossesse et comment les distinguer? Qui sont les femmes concernées par le déni de grossesse? Quelle est sa fréquence? Quelle place occupe le corps, le désir d'enfant, les problématiques générationnelles? Et comment accompagner cet événement particulier? Voilà autant de questionnements que l'on se pose au sujet du déni de grossesse. Pour avoir des réponses à ces préoccupations, Radio Afrique Santé reçoit dans le fauteuil de l'invité du jour Elsa Tongodo. Elle est sage-femme d'État au cabinet de gynécologie et d'obstétrique à Gorée Plateau au Bénin. Elsa Tongodo, bonjour. Dites-nous, c'est quoi le déni de grossesse?
Le terme déni de grossesse est donné lorsque la femme est enceinte mais n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'elle est en état et jusqu'à une période donnée, surtout jusqu'à la fin du premier trimestre, elle n'a pas conscience de son état. Donc, nous avons deux types de déni de grossesse. Nous avons le déni partiel, c'est-à-dire que la femme se rend compte de son état bien après le premier trimestre de grossesse, mais avant accouchement. Le déni total, c'est lorsque la femme n'a pas du tout conscience de son état jusqu'à terme. Et pour certaines, c'est le jour de l'accouchement qu'elle se rend compte qu'elle était enceinte. Dans le cas des dénis de grossesse, les signes de la grossesse ne sont pas présents. C'est-à-dire que la femme n'a pas d'absence de règles, qui est d'ailleurs le premier signe qui fait penser à une femme qu'elle est enceinte. Ce signe-là n'est pas présent. C'est-à-dire que la plupart des femmes ont leurs règles tous les mois, normalement. Donc, il n'y a aucun signe qui peut leur mettre la puce à l'oreille quant à une grossesse. Elles ont leurs règles tous les mois. Elles n'ont pas de signes sympathiques comme les nausées, les vomissements, l'hypercéalurie par exemple, elles n'ont aucun de ces signes-là. Et aussi le ventre ne s'arrondit pas. Le ventre reste normal. L'enfant prend une position qui permet à l'utérus de ne pas s'arrondir pendant le déni de grossesse. Mais il suffit que la femme prenne conscience de son état au fil des mois pour que tous les signes d'une grossesse normale s'installent.
Je n'ai pas compris cette partie.
C'est-à-dire que par exemple, pour celle qui fait un déni partiel, donc après les 3 mois ou avant le terme de sa grossesse, lors d'un examen de routine, elle remarque qu'elle est enceinte. Le fait déjà qu'elle prenne conscience que « Ah, donc j'étais enceinte » suffit pour que les différents signes de grossesse apparaissent, c'est-à-dire que le ventre au fil des jours ou bien au fil de quelques mois va prendre sa taille normale. Les autres signes de grossesse vont apparaître selon le thème.
Quelles sont les personnes susceptibles de faire un déni de grossesse?
Les personnes qui font le déni de grossesse sont souvent celles à qui on a peut-être détecté une stérilité. Donc, ces gens-là ne s'attendent plus du tout à tomber enceinte, voilà, à concevoir. Donc, pour elles, c'est que, bon, il n'y a rien, il ne peut rien avoir et puis il n'y a rien. Dans le cas des jeunes filles, elles n'ont pas envie, elles ne veulent pas y penser, du coup, elles n'y pensent pas. C'est un état psychologique. Le cerveau protège la femme à ce qu'elle ne se rende pas compte de son état en quelque sorte. Il y a aussi celles qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles. Bon, déjà, c'est traumatisant, donc. Penser qu'on est enceinte après cette étape-là est vraiment difficile à concevoir. Du coup, ce genre de personnes peuvent faire un déni de grossesse. En fait, ce n'est pas un truc qui peut arriver à telle ou telle femme. Tout le monde peut avoir un déni de grossesse. Même celles qui ont déjà accouché 1-2 fois peuvent faire un déni de grossesse à leur 3e geste. Donc, ça peut arriver à toutes les femmes, peu importe l'âge, peu importe le milieu social.
Alors, dans l'exercice de votre métier, est-ce que vous avez déjà rencontré des patients ayant un déni de grossesse?
Oui, j'en ai été témoin quelquefois. Bon, la plupart du temps, ce sont des femmes qui viennent en consultation pour tout sauf pour une grossesse. Elles viennent pour un autre problème, peut-être elles ont un problème gynécologique qui nécessite par exemple une échographie ou bien elles ont un tout autre problème qui nécessite peut-être une prise de sang. Donc c'est lors de la prise de sang qu'on remarque que la grossesse est positive ou peut-être c'est surtout lors de l'échographie. Elles font une échographie pour une toute autre raison et là on remarque qu'il y a un embryon ou bien un fœtus dans l'utérus.
Quand elles ont été informées de leur état, comment elles ont réagi?
Pour cette femme-là, c'est très difficile à gérer parce que bon, ça dépend aussi des catégories. Si ce sont des femmes qui avaient déjà, pour une qui est stérile par exemple et qui a envie d'avoir un enfant, c'est vrai que c'est un choc. Mais elle essaie d'encaisser, non, de se dire que ah, donc j'étais enceinte et tout ça quoi. Peut-être elle va peut-être se rappeler d'un événement qui aurait pu lui faire penser à une grossesse. Mais pour d'autres, celles qui n'en veulent pas du tout, c'est un vrai choc. En fait, elle nie catégoriquement. C'est pas vrai. l'échographie est en train de monter. Pourtant, l'écho, elles ont vu à l'écran elles-mêmes qu'il y a un bébé dont le cœur est en train de battre, mais c'est quand même faux, quoi. Donc, pour les autres personnes, bon, pour tout type de déni de grossesse, je crois qu'un suivi psychologique est nécessaire parce que toutes les femmes n'ont pas la même manière d'encaisser les chocs.
Alors, le déni de grossesse a des répercussions sur l'état de santé de l'enfant ou pas?
Bon, dans certains cas, comme la femme n'a pas conscience de son état, c'est que normalement pour une femme enceinte, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Bon, elle doit peut-être prendre soin d'elle et adapter ses besoins à celui de son enfant. Mais quand tu fais un déni, c'est que tu n'es pas conscient de ton état et tu fais tout ce que tu fais d'habitude. Par exemple, pour les femmes qui prennent de l'alcool. Pendant une grossesse, l'alcool est déconseillé. Donc, si elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle ne peut pas arrêter. Du coup, il y a souvent quelques cas d'accouchement prématuré, par exemple, de retard de croissance d'un enfant. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des enfants qui naissent avec un déni, mais qui n'ont pas de problème parce qu'ils se sont adaptés à leurs conditions et ils ont grandi comme ça. Pour la femme aussi, il y a des conséquences parce que, et ignorant leur état, elles peuvent accoucher toutes seules. Pour celles qui font un déni total, ce sont juste des douleurs atroces qui leur mêlent. La puce à l'oreille, elles vont consulter et puis c'est qu'elles sont en train d'accoucher, elles sont en travail d'accouchement. Donc pour une femme comme ça qui ignore son état et qui est peut-être en déplacement et tout, les douleurs vont peut-être l'alarmer, mais bon, comme elle va peut-être reporter sa consultation pour plus tard et, ou prendre des médicaments pour calmer la douleur. Dans ce cas de figure, le travail évolue et peut-être malheureusement elle se retrouve seule à accoucher. Donc en ce moment, elle peut avoir toutes les complications qu'un accouchement qui s'est déroulé tout seul peut avoir pour elle-même et pour son enfant. Donc c'est juste ce genre de conséquences qu'il peut avoir lors d'un déni de grossesse.
Lorsque l'enfant naît, est-ce qu'il y a la montée laiteuse ou bien est-ce que le déni de grossesse a d'incidence sur la production du lait maternel?
La grossesse s'est déroulée normalement. C'est
telle
qui n'a pas conscience de son état. Donc jusqu'à terme et après accouchement, il y aura la montée laiteuse, il y aura le lait nécessaire pourvu qu'elle mette son enfant au sein. Elle reconnaît que vraiment c'est son enfant, puisqu'il y a aussi un autre problème après le déni, c'est qu'elles font peut-être une dépression du postpartum. Elle ne reconnaît pas que c'est son enfant, donc elle n'arrive à créer aucun lien avec cet enfant-là. Pour elle, c'est que c'est pas censé être, elle n'était pas censée être enceinte. Du coup, si elle arrive à accepter que c'est un truc qui arrive et qui lui est arrivé et qu'elle a accouché d'un enfant, sans le savoir, sans le vouloir, peut-être, il y aura forcément une montée laiteuse. Et s'il n'y en a pas, nous, on va faire le nécessaire pour aider cet enfant-là.
Faire le nécessaire pour aider cet enfant issu d'un déni de grossesse. Mais il n'y a pas que l'enfant, la mère qui vient de vivre un déni de grossesse aussi mérite un accompagnement, n'est-ce pas? Alors, vous, en tant que sage-femme, quel accompagnement, quelle aide apportez-vous à ces femmes?
Bon. Pour les femmes qui font un déni de grossesse plutôt, et la première des choses, c'est de les rassurer parce qu'il faut expliquer plusieurs fois pour qu'elles puissent comprendre que ce n'est pas un mauvais truc qui leur arrive. Donc, c'est d'abord de les rassurer afin qu'elles puissent accepter leur état. Et après, pour celles qui ont encore la possibilité de faire des consultations prénatales, on leur propose de le faire. On fait un suivi normal de la grossesse pour la suite ou de l'accouchement et de la période après accouchement. Donc après ça, ce sont des conseils pour la bonne marche. De l'allaitement, les conseils sur l'allaitement, les conseils sur l'hygiène et tout. En tout cas, nous sommes disponibles pour discuter. Le personnel de santé est à leur disposition pour les accompagner.
Vous avez un mot de fin, des conseils peut-être?
Des conseils, je peux dire que les femmes qui font un déni de grossesse ne doivent pas le prendre comme une malédiction ou comme un problème grave. C'est que ça peut arriver à toutes les femmes. Donc, lorsqu'elles se rendent compte de leur état un peu trop tardivement, le mieux c'est de prendre les dispositions pour que la grossesse puisse bien se dérouler pour celles qui font un déni partiel. Et pour celles qui font un déni total après accouchement, et d'accepter l'aide des prestataires de santé, la famille surtout, pour pouvoir surmonter cette étape-là. Et je demande aussi à la famille des femmes qui font un déni de grossesse de le prendre assez bien, parce que c'est eux qui doivent aider cette femme-là à surmonter cette période-là, puisque ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai qu'actuellement, le déni, c'est un truc dont beaucoup n'ont pas conscience. Beaucoup se disent que c'est pas possible qu'on soit enceinte sans le savoir jusqu'à terme, mais c'est bien possible, c'est prouvé. Du coup, nous comptons sur la famille et l'entourage pour ne pas en faire tout un problème en fait.
Voilà qui est bien clair, chers auditeurs, surtout ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le ventre d'une femme poussée, grossie, qu'il faut la traiter de tous les noms lorsqu'elle vous présente un nouveau-né. Il ne faut pas tout de suite penser que l'enfant a été volé, ça pourrait être un déni de grossesse. Faites vos enquêtes avant tout jugement. C'est tout pour cette tranche réservée à l'invité du jour. Elsa Tongodo était notre invitée. Elsa Tongodo, merci.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État au cabinet de gynécologie et d'obstétrique à Gori Plateau au Bénin. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis.